France 24 et RFI présentent
Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Alors le dernier Conseil européen de la présidence hongroise a porté sur la place de l'Europe dans le monde le 19 décembre et nous en parlons, nous avons le plaisir d'en parler en duplex depuis Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères de Belgique, Bernard Quintin. Bonjour.
Bonjour madame.
Le parti mouvement réformateur qui est libéral proche du groupe Renew vous a proposé ce poste de chef de la diplomatie au départ de votre prédécesseur qui devient commissaire européenne. Alors précisons que la Belgique, c'est un État membre fondateur au cœur de l'Union européenne avec près de 12 millions d'habitants qui est en pleine crise politique depuis les élections de juin. Vous appartenez donc à un gouvernement de gestion et vous êtes d'ailleurs un diplomate chevronné, monsieur Quintin, ayant été en poste à Varsovie, à Londres, à Kinshasa, à Rio, au Burundi, à la représentation permanente auprès de l'Union européenne. Alors justement, on va faire un tour d'horizon des crises multiples. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le dernier sommet sous présidence hongroise de décembre. Quels sont les résultats selon vous ?
Le sommet du 19 décembre a pu arriver à un certain nombre de conclusions. La conclusion principale, je dirais, c'est la réaffirmation, pour autant que de besoin, de notre soutien plein et entier à l'Ukraine dans la guerre qu'elle mène contre l'agression injustifiée de la Russie. On a aussi pu, pendant ce sommet, parler des relations avec un certain nombre de partenaires stratégiques, comme le Royaume-Uni et l'Inde. Un point qui est très important pour l'Europe, et alors singulièrement pour la Belgique, qui est une économie très ouverte, et il est important que nous travaillions à notre autonomie stratégique et donc que nous travaillions avec tous nos partenaires pour assurer la prospérité des Européennes et des Européens. La veille du sommet du 19 décembre, il y a eu aussi un sommet avec les Balkans occidentaux, qui sont donc notre voisinage proche des pays partenaires, avec un certain nombre d'entre eux qui sont candidats. Je suis assez fier d'ailleurs que pendant la présidence belge au premier semestre de cette année, on ait pu tenir un certain nombre de conférences intergouvernementales, entre autres avec le Monténégro, qui est vraiment sur le bon chemin dans tout le travail, assez important, il faut le rappeler, pour l'adhésion. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est évidemment les discussions qui ont eu lieu au niveau des chefs d'État et de gouvernement et que nous avions eues au niveau des ministres des Affaires étrangères le lundi 16 décembre sur l'évolution de la situation en Syrie.
Commençons par ce dossier syrien. En effet, le président Bachar al-Assad, chassé du pouvoir le 8 décembre par une coalition d'islamistes, les 27 ont réaffirmé les conditions d'une reprise de leurs relations avec Damas, une Syrie plurielle respectant les minorités, y compris le droit des femmes. En échange, on devrait lever d'ailleurs certaines sanctions. Est-ce que ça vous paraît se présenter bien ?
Il faut d'abord, comme je le disais, se réjouir de la fin d'un régime dictatorial exécrable et criminel vis-à-vis de sa propre population, 53 ans de dictature de la famille Assad. C'est en effet un paysage relativement morcelé encore pour le moment qui est en place en Syrie et nous appelons les nouvelles autorités syriennes à respecter l'intégrité et la souveraineté du pays, donc de respecter les droits fondamentaux, et vous l'avez rappelé, le droit des minorités, la protection des minorités, mais aussi les droits des femmes, dont j'aime bien toujours souligner que ce n'est pas une minorité, bien au contraire, et bien entendu travailler aussi avec tous ces différents groupes pour une solution inclusive et globale pour l'avenir de la Syrie. Et ce sont les conditions qui sont importantes pour que la Syrie puisse travailler à son propre développement et être un facteur de stabilité dans une région qui en a bien besoin.
Alors l'Union européenne veut aussi soulever la question du devenir des bases militaires russes en Syrie. Plusieurs États membres réclament que les nouveaux dirigeants de Damas exigent le départ des Russes. Est-ce qu'on doit en faire un préalable pour vous à la négociation ?
Il ne faut pas non plus, je pense qu'on multiplie les conditions préalables. C'est évident que la condition de la présence de ces bases russes est importante. Je dirais la simple fait qu'elles soient là et qu'il est évidemment intéressant d'abord et avant tout pour les Syriens que ces bases n'y soient plus. Est-ce qu'il faut le mettre comme condition préalable pour tout contact, pour soutien ou tout soutien à la Syrie? Ça n'est pas la position de la Belgique pour le moment. Certains États membres se sont exprimés comme cela. On cherche, bien sûr, comme toujours, un consensus. Mais quand on voit le rôle extrêmement négatif que la Russie a pu jouer avec un soutien inconditionnel à un régime criminel, on peut en tirer des conclusions. Je note aussi que ces bases servent d'acheminement et même d'entraînement pour un certain nombre de milices russes qui sont envoyées sur des théâtres en Afrique. Donc ce n'est certainement pas un rôle positif qui est joué, et ça, on doit en tenir compte.
Monsieur Quintin, votre gouvernement belge a gelé les demandes d'asile syriennes, ce que la France n'a pas choisi de faire. Au cours des 10 dernières années, 35 000 Syriens ont bénéficié de la protection de la Belgique. La Syrie, il vous semble qu'elle va être considérée vite comme un pays sûr pour les réfugiés? Ça ne va pas d'ailleurs générer beaucoup plus d'attentes encore dans les dossiers?
Alors, ce qui a été décidé, c'est la suspension de l'examen des dossiers en cours. Donc, on ne parle pas des gens qui ont déjà le statut de réfugié ou le statut de protection provisoire, mais bien des personnes qui sont arrivées dernièrement et qui ont demandé le statut de réfugié. Donc, c'est ça qui a été suspendu. Assez naturellement, évidemment. Il y a quand même un changement fondamental sur le terrain. Et donc, ce n'est pas le moment de prendre de décisions positives ni négatives, d'ailleurs, dans l'examen de ces dossiers. Ça, c'est une première chose. Le retour des réfugiés répond à trois principes. Il faut qu'ils soient volontaires, il faut qu'ils soient sûrs, il faut qu'ils soient dignes. Et ces principes seront évidemment respectés par mon gouvernement. C'est absolument fondamental. Maintenant, ce que je vois, quand même, avec vous, c'est qu'on a plutôt, et certainement dans les pays limitrophes de la Syrie, un mouvement inverse. Il y a plutôt un flux de réfugiés qui étaient au Liban, en Jordanie ou en Turquie, qui rentrent en Syrie. Et c'est certainement une bonne chose, c'est certainement une aspiration. Vous savez, dans ma carrière, j'ai pu toucher à cette question des réfugiés très régulièrement, quand j'étais au Congo ou au Burundi. Et ce que j'ai pu constater dans ces camps de réfugiés, c'est l'envie fondamentale de ces personnes de pouvoir rentrer chez elles, parce que c'est chez elles et parce qu'elles veulent contribuer à la reconstruction, pardon, de leur pays. Et c'est certainement ce qui va se passer pour la Syrie aussi. Mais il faut y aller étape par étape.
Oui, mais la précipitation de l'Autriche à renvoyer des Syriens ou de l'Allemagne a annoncé finalement aussi le gel des demandes. Est-ce que ça ne témoigne pas d'une frébrilité face à la montée de l'extrême droite dans ces pays et en se positionnant comme très ferme sur les questions migratoires?
Mais ça n'est en tout cas pas la position du gouvernement belge, et c'est cette position-là que je défends. Les questions des réfugiés répondent à un certain nombre de critères qui sont des critères légaux, et nous y tenons.
Alors, dernier sommet de cette présidence hongroise, où participaient Antonios Costa, président du Conseil européen, et puis Kaya Kallas, la nouvelle chef de la diplomatie. Les 27 chefs d'État et de gouvernement entendent envoyer un signal clair au président américain sur leur soutien à Kiev, en soulignant tout d'abord que tout accord de paix doit impliquer l'Ukraine et ensuite impliquer aussi les Européens. Mais est-ce qu'on est encore dans le jeu ?
On est totalement dans le jeu. Comme je le disais au début de cette interview, l'Union européenne a réitéré pour autant que de besoin son soutien plein et entier à l'Ukraine et au président Zelensky dans la guerre qu'il mène contre l'agression russe. Cela est bien entendu maintenu. Rien à propos de l'Ukraine ne peut être décidé sans les Ukrainiens. Ce sont les Ukrainiens qui se battent pour leur survie. C'est à eux à décider si et quand ils veulent entrer en négociation avec leur agresseur, que ce soit directement, indirectement. C'est certainement pas à nous à le déterminer. Quand je dis nous, c'est nous, Européens, mais c'est aussi nous, les alliés, et c'est aussi nous, les amis, et c'est aussi nous, les Américains. Je pense qu'il faut quand même fondamentalement respecter la volonté des Ukrainiens de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que nous soutenons l'Ukraine, c'est pour que si des négociations doivent avoir lieu, les Ukrainiens puissent arriver à cette table de négociation les plus forts possibles. Voilà, ça c'est vraiment notre position, on l'a réaffirmée et nous y tiendrons.
D'autant que les Européens ont débloqué 30 milliards d'aides financières à l'Ukraine en 2025, deux tiers de leurs besoins, une grande partie pour acheter des armes d'ailleurs. Volodymyr Zelensky a néanmoins pressé, vous l'avez entendu, les Européens à ne pas abandonner son pays, mais à faire preuve d'unité, y compris avec les Américains. Est-ce qu'il y a une chance tout de même que Donald Trump, décidant de beaucoup de choses, les choses se négocient au-dessus de nos têtes entre Trump, Poutine et Zelensky sans nous ?
Ça, l'avenir nous le dira. L'Union européenne et chacun des États membres est totalement derrière l'Ukraine. Nous les soutenons, comme vous l'avez dit, avec des fonds importants. De ce point de vue-là, la Belgique est très fière d'être parmi les penseurs et les fondateurs d'un fonds Ukraine qui permet justement de soutenir les Ukrainiens. Nous avons d'autres efforts à faire. Il faut bien sûr mieux soutenir l'industrie de défense ukrainienne, mieux l'intégrer. Donc toutes ces questions, on en discute, mais on les met en œuvre aussi. Est-ce que demain, il y aura des négociations entre les Américains ou sous l'égide des Américains, entre le président Zelensky, le président Trump ou entre les Ukrainiens et les Russes? Nous le verrons. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous resterons toujours, nous, les voisins de l'Ukraine.
Alors Ferrar, le président français ne participait pas au sommet européen parce qu'il était à Mayotte au chevet des victimes du cyclone Chido, mais cela n'a pas empêché de rencontrer Volodymyr Zelensky avec qui il a discuté de l'envoi de troupes sur le sol ukrainien pour garantir un éventuel cessez-le-feu. Ce geste, finalement, cette discussion ne fait pas l'unanimité. Vous êtes critique? C'est trop tôt?
C'est-à-dire que si on parle d'une mission de maintien de la paix, c'est trop tôt pour en parler, tout simplement parce qu'il n'y a pas la paix. Dans une mission de maintien de la paix, les mots ont un sens. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. Donc, est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Peut-être pas, mais c'est en tout cas certainement trop tôt pour prendre une décision dans ce cadre-là. On peut parler de tout. Ça, c'est quand même, je trouve, une des forces de l'Union européenne, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on a en tout cas toujours cette capacité à discuter de tout et à tenter de trouver des solutions ensemble sur tous les problèmes.
Quand Trump menace, justement, Donald Trump menace aujourd'hui encore les Européens, finalement, de droits de douane intempestifs, en particulier s'ils n'achètent pas assez de gaz naturel ou de pétrole aux États-Unis. D'ailleurs, les Européens se demandent si ça n'est pas un levier de négociation, l'achat de gaz naturel et d'armes. Comment réagir, dans le fond?
Écoutez, d'abord, on va voir ce que le président Trump fera à partir du 20 janvier, quand il aura prêté serment pour son deuxième terme de président. On écoute évidemment et on analyse très attentivement ce qu'il dit. Il faut reconnaître une certaine constance dans ses prises de parole. Donc ce sont quand même des éléments qu'on doit analyser le plus finement possible. Nous savons que le président Trump et son administration seront probablement plus transactionnels que l'administration actuelle. Il faut qu'on s'y prépare. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'important de travailler sur notre stratégie autonomique ou Open Strategic Autonomy, comme on dit en bon français, parce que nous devons diversifier nos partenaires. Maintenant, les États-Unis ne sont pas seulement un partenaire, c'est quand même un allié. Et ça, tout le monde s'en souvient, aussi de l'autre côté de l'Atlantique. 10% de droits de douane plus élevés, c'est, d'après une étude de Goldman Sachs il y a 2-3 semaines, c'est 1% du PIB européen. Donc c'est évidemment très très important. Le piège serait de tomber dans une forme de guerre d'isolationnisme ou de guerre des tarifs. C'est en tout cas pas la volonté de l'Union européenne. Nous devons nous préparer, comme je le disais, nous devons diversifier aussi nos partenariats. C'est pour ça, par exemple, que l'accord Mercosur, et j'entends bien les interrogations qu'on peut avoir sur cet accord-là, est aussi important. On parle d'un marché de 270 millions de personnes pour lequel on pourrait augmenter et intensifier nos échanges.
Vos agriculteurs ont protesté contre cet accord?
Bien sûr, une partie du monde agricole belge a protesté, et nous ne sommes pas sourds à ces protestations. Et nous sommes surtout très attentifs aux préoccupations qui sont exprimées, et nous devons y répondre. Et vous savez, la Belgique, vous l'avez rappelé, pays moyen, 12 millions d'habitants, plus de 80% du PIB belge dépend du commerce international. Donc notre intérêt, c'est d'avoir des bons accords commerciaux et les meilleurs accords commerciaux possibles dans lesquels tous les intérêts des deux parties se retrouvent. Nous avons dans la nouvelle négociation de cet accord à partir de 2019, la Belgique a été parmi les pays qui ont plaidé pour qu'il y ait des clauses légales qui assurent la lutte contre le changement climatique, la déforestation, les droits sociaux aussi. Et nous avons toujours, comme Belgique, insisté auprès de la Commission pour que justement les particularités d'un certain nombre de secteurs de notre agriculture soient prises en compte. Nous devons maintenant analyser l'accord et faire en sorte que les clauses de sauvegarde qui sont prévues dans l'accord soient bien consolidée et puisse être mise en œuvre si on détecte de véritables problèmes comme on peut le prévoir plus ou moins maintenant.
Les élections législatives belges se sont tenues le 9 juin en même temps que les européennes et les régionales et ont bouleversé votre paysage politique national. Le NVA, le Parti nationaliste indépendantiste qui appartient aux conservateurs et réformistes, est arrivé en tête devançant le Vlaams Belang, parti nationaliste flamand lié aux patriotes pour l'Europe, hein, pour que nos téléspectateurs comprennent que c'est la droite la plus radicale. Hein. Monsieur Quintin, votre Premier ministre Alexandre De Croo est chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur. Et vous n'avez pas l'air de vous inquiéter tellement de ces crises politiques ni de la nécessité de faire des coalitions à la différence des Français.
Alors, c'est-à-dire que la coalition, elle est quasiment consubstantielle à la vie politique belge. On a un scrutin proportionnel, et tout scrutin proportionnel amène quasiment automatiquement lui-même la nécessité de faire des coalitions. Vous y ajoutez la petite pincée de sel belge où, comme vous le disiez, le Premier ministre Alexandre De Croo, il est membre de la famille libérale. Le paysage politique belge est complexe parce que la structure belge et la réalité belge est complexe. Donc, c'est vrai que cela fait 6 mois que des négociations sont en cours pour former un nouveau gouvernement. Moi, je ne dis pas que c'est bien. Je pense, comme citoyen, ce que je suis d'abord et avant tout, il est important qu'on ait un nouveau gouvernement, d'autant qu'on fait face, comme à peu près tous les pays européens et au-delà de l'Europe, à une situation budgétaire qui n'est pas simple. Donc des choix difficiles doivent être opérés. Et pour ça, on a besoin d'un gouvernement de plein exercice. Mais c'est vrai qu'on n'est pas en panique ou en interrogation peut-être comme nos amis français face à la nécessité de négocier. Vous savez, nous le faisons non seulement avec différents partis, mais nous le faisons même dans différentes langues. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Chaque pays a son histoire et les systèmes électoraux correspondent aussi à l'histoire de chaque pays. Donc je ne porte pas de jugement ici. Je dis simplement, pour rassurer mes amis français, c'est possible, c'est faisable, et pour celles et ceux qui connaissent la Belgique, malgré le fait qu'on vit dans des coalitions et qu'elles ne sont pas toujours à former, il y fait quand même bon vivre.
Merci à vous pour ces mots qui seront les mots de la fin. Merci Bernard Quintin d'avoir été notre invité aujourd'hui, chef de la diplomatie belge. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos antennes où l'actualité continue.